en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Marie-Béatrice Lahorgue.
Bonjour, l'invité de notre série en habit vert est aujourd'hui Pierre-Dave Volvé, que je suis heureuse de recevoir. Professeur, bonjour.
Bonjour madame, je vous remercie beaucoup de m'accueillir.
Pour une première, hein, en réalité.
Première, mais quand il y a une première, ça implique qu'il peut y avoir une deuxième, à condition que ce soit réussi.
Ah non, point
ça dépend de moi, mais un peu de vous aussi.
Un peu de nous deux, en réalité. Une première en réalité, car vous avez été élu à l'Académie des sciences morales et politiques le 14 décembre 2009, au fauteuil numéro 8, je suis allée vérifier, qui était en réalité le fauteuil de Jean Foyer, mais nous allons y revenir dans un instant. Juste un rappel pour vous présenter, si toutefois il en était besoin.
Car oui, il en a besoin.
Ou auprès des étudiants des facultés de droit, j'ai un doute, peut-être auprès du grand public.
J'ai un doute encore plus fort.
Alors vous êtes né le 16 septembre 1940 à Malloz, dans le Tarn et Garonne. Vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris en 1962, section service public, puis docteur en droit des facultés de droit de Paris, le 26 mars 1966, sur une thèse intitulée « Le principe d'égalité devant les charges publiques », qui a été par la suite publiée à la LGDJ et préfacée par Georges Vedel. Vous avez été agrégé de droit public le 19 décembre 1966. Vous avez eu une, je dis bien vous avez eu, car elle vient de s'achever, on va y revenir aussi, une longue et brillantissime carrière universitaire, hein, puisqu'elle vous a conduit quelque part à l'Académie.
Brillantissime, je vous laisse la responsabilité du qualificatif. Le long, ça s'apprécie sur le temps, c'est un calcul purement mathématique.
Bien, alors, vous avez fait les passages par les universités de Beyrouth, de Toulouse, pour finir donc à l'université Panthéon Assas Paris 2. Lorsque nous avons préparé cette émission ensemble, vous avez mentionné aussi votre attachement au fait d'avoir été membre du jury et président du concours d'agrégation de droit public en 1999 et 2000, mais surtout d'avoir été responsable de la conférence d'agrégation de droit public de 2000 à 2009. Vous avez en réalité donné votre dernier cours à l'Université Panthéon Assas le 12 mai 2010 devant un public fort nombreux, j'y reviendrai aussi, sous une pluie de roses.
Oui, la fin.
À la fin, oui. Et vous avez donc été élu le 14 décembre 2009 à l'Académie des sciences morales et politiques. Le 4 décembre 2010, on vous a remis l'épée, selon votre souhait, je crois, comme il est de tradition, à Assas, là où votre dernier cours avait eu lieu. Et le 2 mai 2011, vous prononcerez votre discours, en particulier sur Jean Foyer. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous dire un mot sur Jean Foyer?
Le premier mot, c'est qu'il est très impressionnant de succéder à Jean Foyer, qui a été à la fois un grand professeur et un homme politique important. Grand professeur, c'est évidemment dans les facultés de droit qu'il est surtout connu, et dans les milieux juridiques. Il a eu un rôle important dans le domaine de la procédure civile. C'était, au sens non péjoratif bien sûr, un procédurier, non pas qu'il ait engagé beaucoup de procès, mais il était spécialiste de la procédure civile. Et cette spécialité, elle s'est prolongée lorsqu'il a été ministre. Et c'est à son rôle comme homme politique que je veux faire ici référence. Il a été élu député du Maine-et-Loire et il a occupé des sièges ministériels très importants, celui de la coopération au moment où les États africains accédaient à l'indépendance. Il a été ministre de la Santé et, surtout à mes yeux, il a été ministre de la Justice, ce qui lui a permis de procéder à des réformes dans le domaine précisément de la procédure civile, mais également dans le domaine du code de commerce. Il a fait réaliser également des études en vue de réformes pour le statut de la famille. Et sur le plan pénal, il était ministre de la Justice à une époque difficile, c'est celle de la fin des événements d'Algérie. Et il a essayé d'avoir une politique sous l'autorité du général de Gaulle qui soit équilibrée entre la répression nécessaire et la prise en compte de la situation particulière de ceux qui s'étaient révoltés contre l'autorité du général de Gaulle. Et dans ses mémoires, sur les chemins du droit auprès du général, il montre bien tout le rôle qu'il a pu jouer dans le domaine du droit, de la justice, en tant que ministre du général de Gaulle. Je crois que son apport a été très important et il faut le souligner. C'est ce que je ferai dans la notice que je suis en train d'élaborer en vue de mon discours du 2 mai 2011. Mais je dois dire que je suis très impressionné et par le sujet et par l'auditoire qui va m'écouter.
Alors le 2 mai 2011, en réalité, ce sera pour vous l'achèvement d'un parcours initiatique, on peut dire ça comme ça?
Vous pouvez dire ça comme ça.
J'ai envie de profiter de votre présence ici, j'ai vérifié, ça ne s'est jamais fait, pour vous questionner justement sur l'élection. Votre élection a donc été approuvée par un décret du président de la République le 15 janvier 2010. Je relisais, en préparant cette émission, le fauteuil hanté de Gaston Leroux, dont je conseille vivement la lecture à nos auditeurs. Et je me demandais s'il s'agissait d'une véritable fiction. Comment, en réalité, pour reprendre l'expression de Cocteau, accède-t-on au fauteuil, qui, j'espère, en ce qui vous concerne, n'est pas hanté? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur tout ce parcours?
C'est véritablement une accession. D'abord parce qu'on accède à l'Institut, ce qui est une sorte de consécration, pour ne pas dire de couronnement. Alors, il peut arriver que des personnes, pour quelque académique que ce soit, aient cette ambition dès longtemps et qu'ils y voient un point auquel il faut accéder et s'y prépare. Ce n'a pas été mon cas. J'avais entendu parler de l'Académie depuis longtemps. J'avais côtoyé notamment Roland Drago, qui m'avait fait l'honneur de son amitié, avec lequel j'ai travaillé sur bien des sujets. Et à vrai dire, c'est plutôt à lui que je pensais au cas où un jour je devrais succéder à un académicien. Puis les circonstances ont fait que c'était plutôt le fauteuil laissé vacant par le décès de Jean Foyer qui se prêtait à une candidature. Lorsque ce fauteuil a été déclaré vacant, je crois que des académiciens, juristes, pensaient à plusieurs candidats possibles. Et ils m'ont approché. J'ai beaucoup hésité en pensant que d'autres avaient autant de titres, voire plus de titres que moi. Et une sorte d'accord a fini par se faire avec certains d'entre eux pour que je sois plutôt candidat. J'ai été candidat finalement très tard, alors que le fauteuil avait été déclaré vacant au début d'octobre, je crois. Je ne me suis déclaré qu'à la Toussaint, au début de novembre. Et à ce moment-là, je me suis pris au jeu, enfin, pris à la campagne. Et j'ai effectivement fait une véritable campagne électorale en allant rendre visite à tous ceux des académiciens qui pensaient que me rencontrer pouvait être utile. Certains m'ont dit que ce n'est pas utile parce qu'ils me connaissaient. D'autres m'ont dit que ce n'était pas utile parce que leur voix était déjà prise. D'autres m'ont dit que de toute façon, ils seraient contents de me rencontrer. Et je dois dire que le premier intérêt de s'approcher de l'Académie, c'est de rencontrer à l'occasion de ces visites des personnalités qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer d'ordinaire. Alors pendant cette période, ça a duré à peu près un mois et demi, puisque j'ai été élu le 14 décembre, j'ai été assez occupé par cette idée, par cette activité. Et l'un de mes confrères m'a dit que des campagnes électorales qu'il avait connues, municipales, cantonales, sénatoriales, législatives, c'était la campagne académique qui était la plus difficile. Alors, je ne peux pas faire de comparaison de ce genre puisque je n'ai jamais été candidat à des élections politiques. Je veux dire que c'est une campagne qui est agréable. Il y a une certaine tension puisqu'il y a un enjeu. Nous étions 4 candidats, donc le résultat n'était pas évident. Et d'ailleurs, je veux dire que compte tenu de la présence de certains autres candidats, je croyais que soit je serais battu, soit il y aurait, dans la meilleure des hypothèses, une élection blanche. 5 tours sans qu'une majorité se dégage. Il se trouve que j'ai été élu au premier tour avec plus que de voix qui n'étaient nécessaires pour avoir la majorité. C'est évidemment un élément de satisfaction très important, mais il a fallu pour cela faire ses preuves. Et la majorité des académiciens ont considéré que j'avais fait mes preuves. Ils se sont peut-être trompés, mais enfin j'ai été élu.
Est-ce que ça vous donne le sentiment d'être devenu immortel?
Il faut faire preuve de beaucoup de modestie. D'abord, l'immortalité, ce mot est évidemment une sorte d'humour pour souligner que l'on est consacré, qu'on se souviendra de vous. Si je prends la liste des académiciens du 19e siècle pour parler seulement de l'Académie des sciences morales et politiques, beaucoup sont tombés dans l'oubli et je crains, en tout cas je crois, que je pourrais avoir ce même destin dans quelques années suivant la mort, puisque cette immortalité n'est qu'une fiction. Donc, beaucoup de modestie, et il ne faut pas s'y croire, comme on dit chez moi.
Chez les jeunes aussi. Votre carrière universitaire s'est achevée par votre dernier cours à l'université Panthéon-Assas, le mercredi 12 mai 2010, en l'amphithéâtre 1, devant un millier de personnes. Sous la conduite du président Louis Vogel, revêtu de leur toge, l'ensemble de vos collègues, publicistes et privatistes, ont assisté à votre dernier cours qui portait sur le régime de l'ouvrage public. À cette occasion, vous avez reçu le Code d'or de l'université et c'est sous les vivas du public, une pluie de roses, que vous avez quitté. Et là, je reprends le titre du journal Le Petit Juriste, votre chère scène. Mais pour nos auditeurs, puisqu'on est à la radio, je vais quand même énoncer chère scène. C'est chère, C-H-A-I-R-E. Et scène, S-C-E-E, accent grave, N-E. Si vous n'aviez pas eu la vocation juridique chevillée au corps, auriez-vous été le même professeur d'El Volvé que celui du 12 mai 2010 ? Vous avez aussi évoqué auprès du petit juriste à la fois un héritage accepté et un héritage fructifié. Qu'en
Vos
est-il ?
Questions sont très riches. D'abord, un mot sur le 12 mai. Je m'attendais à une petite manifestation pour mon dernier cours. Je ne m'attendais pas à une manifestation de ce genre-là. Ouais. Je veux dire que j'ai été infiniment touché de la présence de mes collègues, du président d'université, collègues, comme vous l'avez dit, en robe, privatiste autant que publiciste, des étudiants de l'année, des étudiants anciens, mes assistants, des membres du Conseil d'État qui sont venus à cette occasion. L'huissier qui me conduisait à l'amphithéâtre avait un petit sourire en coin dans le couloir, laissant par là entendre qu'il y aurait peut-être quelque chose d'un peu différent de mes cours habituels. Et quand je suis entré dans l'amphi et qu'il y a eu une explosion d'applaudissements, je voulais dire que ça allait au-delà de ce à quoi je m'attendais. Et j'en suis très touché parce que tous ceux qui étaient là ont voulu me manifester une affection en même temps qu'une reconnaissance. Et vous le savez, comme moi, on ne sait jamais comme professeur quel effet on produit. Ben pour mon dernier cours, j'ai eu l'impression que j'avais produit un effet qui avait pu satisfaire un certain nombre de personnes. Enfin, là aussi, comme pour l'élection à l'Académie, il ne faut pas s'en croire trop. Enfin, ça a été un très grand moment, mais j'ai fait mon cours. Et j'ai fait mon cours sur le régime de l'ouvrage public, vous êtes très au courant. Et ça tombait bien parce que le Conseil d'État avait rendu une quinzaine de jours auparavant un arrêt important. Et j'ai pu commencer mon cours devant ce public en disant que je savais bien pourquoi ils étaient si nombreux. C'est parce qu'ils allaient entendre parler de l'ouvrage public qui faisait l'objet d'une actualité jurisprudentielle tout à fait importante. Alors, dans le prolongement de votre question, la chaire. Il n'y a plus de chaire depuis 1968. Mais il y a, au sens juridique du terme, mais il y a encore une chaire justement dans cet amphithéâtre. Et bien justement, je ne l'occupe pas. Parce que je ne veux pas parler assis, et la chaire de l'amphithéâtre 1 est très loin du public, et je me mets sous la chaire debout. Et j'ai toujours fait mes cours debout, et cela que fait allusion le petit juriste que vous avez lu, oui, j'ai fait mes cours comme un acteur. D'où l'expression
de
la scène. Quand j'avais 15 ans, au fond, j'ai eu deux vocations contradictoires, et je n'ai pris ni l'une ni l'autre. À un moment, je rêvais d'être officier. À un autre moment, je rêvais d'être comédien. Je n'ai été ni l'un ni l'autre, mais les étudiants ont trouvé que dans la manière dont je les traitais, il y avait une autorité qui rejoignait
Toute
celle
militaire.
De l'officier, du militaire, et quand dans la manière dont je me comportais pour dire, pour proclamer, je ne dis pas pour déclamer, sauf quelques passages, le cas échéant, eh bien, je me comportais comme acteur. Alors, il y a dans ce comportement le souci de plaire. Il n'y a rien de plus ennuyeux que d'écouter un cours, une conférence, un sermon. Et en plus, si la matière, c'est la matière juridique. Il faut donc essayer de distraire, au sens fort du terme, distraire, sortir l'auditoire de son ennui et lui apporter quelque chose qu'il suive de bout en bout. Il faut bien être conscient de ses limites. Je n'ai pas toujours réussi. Et il y a bien des cours au cours desquels je sentais la tension se relâcher, des bavardages se propageaient. Ça ne durait pas très longtemps soit parce que dans mon autorité toute militaire, je rétablissais l'ordre, soit parce que dans mon souci de plaire, sentant que mon public décrochait, j'essayais d'avoir un truc, une petite histoire, une petite réflexion, une petite interpellation, un silence, pour rattraper mon public et le mener jusqu'au bout de l'heure. Ça n'est jamais gagné d'avance, et c'était pour moi toujours une extrême tension dans la préparation du cours, une tension dans la conduite du cours, parce que comme un acteur, je faisais mon cours sans me référer à des notes. Je le reconnais, c'est une coquetterie, mais c'est également une manière d'essayer de faire passer un message.
Nous sommes ici justement au cœur du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, l'enseignement du droit, puisque au-delà de l'habit vert que j'ai le plaisir de recevoir, c'est aussi et surtout le professeur de droit que vous avez été. Et lorsque nous avons préparé ensemble cette émission, effectivement, nous avons cherché le thème central qui était celui de vos préoccupations et des miennes. Et il nous est apparu évident notamment que votre parcours personnel, professionnel, évoquait très clairement celui du métier d'enseignant-chercheur, en particulier celui d'enseignant du droit. Un métier ou un sacerdoce, est-ce qu'on enseigne le droit comme on enseigne les sciences, comme on enseigne les mathématiques?
Là encore, question complexe. Alors, premier élément de réponse, je n'ai été qu'un professeur. Mais avec toute la palette que cela représente. Le professeur donne en l'enseignement. Le professeur cherche, produit, rédige. Alors, on parle beaucoup d'enseignement et de recherche dans le domaine du droit. Je préférerais qu'on parle de l'étude. Étude qui aboutit à rédiger des articles, des ouvrages, à faire des propositions, à mettre en évidence l'état d'une branche du droit, d'une législation, d'une jurisprudence, à proposer des modifications, des améliorations. Puis la troisième facette d'un professeur qui est dans la cité, c'est de donner éventuellement, lorsqu'on le sollicite, des avis sur des questions de droit, soit pour faire le point sur le droit applicable, soit pour faire une étude en vue de modifier l'état d'une législation. Donc, je crois que dans le professeur, et j'y tiens beaucoup, il y a vrai professeur de droit, il y a ces trois éléments, l'enseignement, l'étude et la proposition, ou qu'on appelle la consultation, le conseil au sens large du terme. Alors, est-ce qu'on enseigne le droit de la même manière qu'on enseigne une autre discipline, telle les mathématiques? Alors, c'est très difficile pour moi de répondre. Je n'ai jamais enseigné les mathématiques, pour la raison fondamentale que j'ai toujours été nul en droit. Mais je n'ai jamais enseigné non plus en droit, je veux dire.
En mathématiques.
Mais non, le lapsus est peut-être révélateur.
Je vous laissais aller jusqu'au bout en me disant, mais où veut-il en venir? Je pense que c'est en mathématiques plutôt.
Vous savez, les lapsus sont toujours révélateurs de quelque chose. Au fond, quand j'ai dit que j'ai toujours été nul en droit, c'est peut-être vrai. Je voulais dire, bien entendu, mathématiques, mais il faut être conscient de ces lacunes. Et je sais que j'ai des lacunes en droit. Il y a des branches du droit que je ne connais pas bien ou pas du tout. Et même dans la matière que je suis censé connaître un peu mieux, le droit public en général, le droit administratif en particulier, je ne dis pas que je sais tout très bien. Par conséquent, le lapsus n'était pas complètement inutile.
Révélateur.
Était révélateur. La manière d'enseigner le droit, nous avons, c'est une vieille tradition, ce que l'on appelle le cours magistral. Et j'ai donné, tout au long de ma carrière, des cours magistraux, c'est-à-dire des cours en amphithéâtre plus ou moins importants. Vous avez évoqué le dernier cours, il y avait 1000 personnes, mais parce que le public avait été un peu renforcé par ceux qui voulaient venir au spectacle final. Si un cours donné à des étudiants, à un public en général, est un cours bien construit, clair, vivant, qui met en évidence le relief d'une matière, les lignes directrices, je crois que le cours dit magistral garde sa raison d'être. Si le cours magistral, c'est la lecture d'un texte rédigé de bout en bout, quelquefois d'un texte qui se trouve dans un polycopier, le cours magistral n'a pas la même utilité et je dois dire qu'il devient même inutile. Si le professeur lit un texte qui est disponible autrement, ce n'est plus un professeur, en tout cas, ce cours n'est plus un cours, c'est une lecture que mes collègues qui entendront ces propos me pardonnent leur sévérité. Mais c'est ce que je crois profondément. Et l'enseignement du droit ne peut pas se limiter à l'enseignement d'un cours proféré du haut ou du bas de la chaire. Il faut évidemment, mais dans cette matière comme dans les autres, inviter les étudiants à appréhender eux-mêmes la matière, à prendre connaissance des textes, prendre connaissance de la jurisprudence, exercer leur réflexion pour se construire eux-mêmes une réflexion et une connaissance de la matière qui ne soit pas seulement ce que j'appellerais le parachutage d'un enseignement donné d'en haut. Je connais beaucoup d'universités étrangères dans lesquelles ce genre d'enseignement existe encore. Et lorsqu'on va vers l'est de l'Europe ou dans des pays situés plutôt dans la partie orientale du bassin méditerranéen, j'ai rencontré ce genre d'enseignement qui aboutit à faire apprendre par cœur par les étudiants ce qu'on leur demande de restituer à la fin de l'année. C'est la négation de l'enseignement supérieur. Je sais qu'il y a beaucoup de changements et que ces méthodes qui ont été adoptées ou appliquées dans un certain nombre d'universités sont en train d'être modifiées. Alors, il y a la solution complètement inverse, qui est la solution anglo-saxonne, où il n'y a aucun enseignement magistral, où il y a des leçons, mais portant sur des cas pratiques qui sont construits et qui amènent les étudiants à une réflexion, à une recherche, à une réflexion, à une construction. C'est à l'opposé de nos méthodes. Je crois que cela donne de très bons résultats. Il n'y a qu'à voir ce que sont les juristes anglo-saxons. Il y a une sorte de fascination pour la méthode de cas et dans certaines institutions, je pense aux grandes écoles, on considère que c'est désormais la seule méthode à appliquer. Je n'en suis pas sûr. Je crois qu'un enseignement bien structuré, bien charpenté, qui construit l'état d'une matière en la présentant, peut en même temps construire l'état de la connaissance et de la réflexion des auditeurs ou des lecteurs. Je crois qu'il faut arriver à une sorte d'enseignement combinant les deux approches. Et au fond, c'est ce que nous nous efforçons de faire aujourd'hui dans nos universités françaises, en tout cas en droit, où vous avez des cours dits magistraux, et puis ce qu'on appelle les travaux dirigés ou travaux pratiques, ce qui est un peu ridicule parce que travaux pratiques, ça fait penser à des cornues, à des instruments de laboratoire. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Enfin, l'essentiel, c'est d'avoir un enseignement plus concret. Et quand je parle de concrétisation, un enseignement qui fasse participer les étudiants à la réflexion et à la recherche.
Vous avez justement évoqué les universités étrangères. Vous avez enseigné, vous avez été professeur à l'université de Beyrouth de 1967 à 1971. Vous connaissez les universités de l'Est. Que pensez-vous de cette structuration institutionnelle des universités qui s'est construite au fur et à mesure de l'histoire et qui a donné chez nous, par exemple, la summa divisio, droit public, droit privé, alors que lorsqu'on regarde certaines matières comme le droit de l'environnement aujourd'hui, alors le grand débat autour du droit pénal, droit public, droit privé, voilà, est-ce que tout ceci se justifie aussi? Et quid de l'évolution institutionnelle de nos facultés en futures écoles de droit, par exemple?
Alors là encore, vos questions sont très riches. Difficile de répondre à tout ce qu'elle comporte. D'abord, il y a la création des institutions. Vous avez fait allusion à la création des institutions d'abord dans l'Antiquité. L'école de Beyrouth fut une grande école, mais
Rome.
D'autres institutions, bien entendu, d'abord
Rome, Constantinople,
à Rome, bien sûr. Et puis toute la création des universités au Moyen-Âge. Et il y a une sorte de compétition entre les universités françaises à dire laquelle est la plus ancienne, est-ce que c'est Toulouse, Montpellier, Paris, Orléans? Et les Italiens auraient à nous reprendre encore à ce sujet, parce qu'eux aussi ont eu un mouvement de création d'universités, les Allemands aussi, à peu près dans cette période, qui est une période de grande construction intellectuelle et politique. Et je pense notamment à la création de l'Université de Toulouse, dans laquelle j'ai enseigné.
À la RFDA, vous signalez Toulouse, c'est le retour aux sources.
Oui, mais ça, c'est un autre aspect,
je vous dirais.
Non, mais l'Université de Toulouse a été créée par le roi de France au moment du rattachement du Languedoc enfin, du comté de Toulouse, à la France. Et mes collègues autonomistes de la faculté de Toulouse n'ont pas voulu qu'on célèbre le 7e centenaire de la création de l'Université de Toulouse parce que c'était une marque de la mainmise du pouvoir central sur les autonomies provinciales. Je trouve ça absolument ridicule parce que c'était en même temps une marque de la reconnaissance et de l'importance de Toulouse et de l'importance du rôle intellectuel que jouent les universités dans l'aménagement de ce que je n'appellerai pas encore un État, c'est un peu trop fort pour l'époque considérée, mais dans la création d'un ensemble d'institutions qui vont encadrer ce qui était déjà la France. Alors, les universités ont eu des modèles variés. La nôtre, en réalité, enfin, les universités françaises sont tombées au XVIIe, XVIIIe siècle dans un état de conservatisme, d'atonie, qui a justifié la création d'autres institutions. Déjà, le Collège de France, avec François Ier, puis des écoles d'ingénieurs. Alors, tout cela a été repris sous la Révolution et l'Empire. Et en réalité, notre système d'université, il a été conçu sous l'Empire. On dit toujours l'université impériale, il ne faut pas exagérer, c'est quand même la Troisième République, avec les grandes lois de la Troisième République et les grands ministres de l'enseignement supérieur du début de la Troisième République qui ont constitué l'université telle que nous l'avons connue jusqu'en 1968, avec les divisions en facultés. Alors, parvenir sur 1968, la volonté de pluridisciplinarité, la division de certaines universités, le rapprochement de certaines autres, mouvement qui conduit maintenant à une nouvelle réorganisation, avec la loi qui a été adoptée il y a maintenant un peu plus d'un an, qui a suscité quelques réactions, qui ne suscitent pas mon enthousiasme, mais il y a quand même une volonté de donner aux universités une impulsion. C'est le mot, je crois, le plus neutre et le plus vrai que l'on peut reconnaître, une impulsion, même si on peut être réticent sur certaines modalités de l'organisation. Et nous assistons alors à un nouveau mouvement qui est un mouvement de reconcentration, en tout cas de réunion d'un certain nombre d'universités à Paris, en province, avec le maintien pour chacune d'elles, néanmoins, d'un certain nombre d'autonomes et de points d'autonomie. Je pense à Paris 2 qui s'est réuni avec d'autres universités, mais qui conserve sa raison d'être, son particularisme au sein de cet ensemble. Alors, vous avez parlé de la création d'écoles de droit. À Paris 1, le mot a été officiellement adopté. À Paris 2, c'est un collège de droit qui a été mis en place, avec des perspectives qui sont des perspectives, je crois, un peu différentes. Le mot « école de droit », je ne veux pas faire de peine à Paris 1, mais c'est un retour en arrière. Parce que l'école de droit, c'était la situation de l'enseignement du droit au début du 19e siècle. Et pendant longtemps, le fronton de ce qui est devenu la faculté de droit était marqué par l'inscription « école de droit ». Pourquoi ? Parce que l'école de droit fait référence à un enseignement que l'on veut pratique. Il est très important d'avoir des enseignements pratiques. Il est très important que l'on forme des juristes qui seront avocats, qui seront magistrats, qui seront huissiers, qui seront juristes d'entreprise et qui puissent avoir la connaissance des règles de droit et des techniques de droit nécessaires à l'exercice d'un métier. Mais le droit, ce n'est pas simplement un métier. Et l'enseignement du droit, ce n'est pas simplement l'enseignement de technique, pour ne pas dire, l'expression est vulgaire, mais je l'emploie volontairement, de trucs juridiques. Le droit, c'est une discipline qui, j'enfonce une porte ouverte, qui encadre la vie en société.
Je vous cite, le droit n'est pas une technique, mais se pense.
Le droit se pense, fondamentalement, c'est moi qui ai dit ça.
Oui, c'est vous.
Je confirme, bien entendu, la notion même de droit, l'ensemble des notions qui encadrent telle ou telle discipline juridique. Prenons la matière que je connais le moins mal. Pourquoi un droit administratif ? Qu'est-ce qui justifie l'existence d'un droit administratif ? Qu'est-ce qui justifie l'existence d'une juridiction administrative ? Il y a à la base de cette existence une volonté de déterminer d'une certaine manière les rapports entre les pouvoirs publics et, pour employer un terme neutre, les ressortissants, on ne veut plus dire administrés, la manière dont les relations entre l'administration et ses usagers doivent être organisées, les prestations que l'administration leur doit, les règles de droit qu'elle doit respecter. À la base de toutes ces solutions, il y a une réflexion sur, non pas simplement la notion même de droit, mais le contenu du droit. Pourquoi telle règle? Pourquoi telle solution? Pourquoi tel genre de procès? Et fondamentalement, dans toute prescription juridique, dans toute règle juridique, il y a à la base une réflexion et une volonté. Une volonté dont on peut dire qu'elle a un caractère politique, mais au sens noble du terme. Je dis toujours, le droit public, c'est le droit de la cité. Et le droit, c'est, nous l'avons déjà dit, l'ensemble des règles qui régissent les liens entre les personnes, les liens sociaux. Nous retrouvons à la base, dans le droit de la famille, comme dans le droit des collectivités publiques, comme dans le droit de l'État, nous avons à la base l'organisation et le fonctionnement de la société.
Cela m'amène à vous poser la question directe, puisqu'elle est liée à cette conception, à cette réflexion autour du droit, de la recherche fondamentale en droit. Parce qu'en réalité, lorsque l'on dit que nous sommes enseignants, notre statut est d'être enseignant-chercheur. Alors les scientifiques en doutent hein, souvent. Les juristes cherchent-ils et puis trouvent-ils surtout? Alors selon vous, la recherche juridique, ça existe? Faut-il parler de recherche fondamentale, de recherche appliquée? Quelle est son utilité?
Vous avez peut-être observé que tout à l'heure, lorsque vous avez évoqué ma profession, au lieu de répondre sur les mots enseignant-chercheur, vous ai dit que j'étais professeur. Je déteste la formule enseignant-chercheur. D'abord parce qu'elle est laide.
Elle est statutaire.
Et justement, je conteste que les statuts, que la loi, que le législateur depuis 1984 et peut-être même avant oui. emploie cette expression enseignant-chercheur. Professeur, c'est une expression qui a un statut de plus haut niveau. Bien sûr que nous faisons de l'enseignement, bien sûr que nous faisons de la recherche, mais nous ravaler au niveau de cette expression d'enseignant-chercheur m'a toujours paru dégradant et j'ai toujours refusé que l'on m'appelle avec cette expression. Alors je le refuse ici aussi quand vous l'employez. Mais alors je reviens quand même à votre question. L'enseignement, nous avons vu, il y en a en droit. Est-ce qu'il y a de la recherche en droit ? N'ayons pas de complexe, ne faisons pas de la recherche comme en font les scientifiques. Nous n'avons pas, ni dans notre matière, ni dans nos instruments, ce qu'ont les scientifiques. D'ailleurs, il y a certaines branches des sciences dans lesquelles je crois que les instruments ne sont pas particulièrement développés. Est-ce que je me trompe en disant que les mathématiciens n'ont pas beaucoup besoin d'instruments, si ce n'est aujourd'hui les ordinateurs ? Mais on a fait de la recherche mathématique bien avant que les ordinateurs existent. Donc même dans les sciences dites dures, il peut y avoir, je parle avec précaution, mais il peut y avoir, je parle des mathématiques, il peut y avoir des disciplines dans lesquelles la recherche n'implique pas l'utilisation d'un matériel. Nous, notre matériel, ce sont aujourd'hui les ordinateurs, oui, mais c'était jusqu'alors essentiellement les recueils de textes constitutionnels, législatifs, réglementaires, et évidemment les recueils de jurisprudence. C'est notre matière première. Mais notre matière première, c'est comme pour les mathématiciens, c'est également la réflexion. Et alors, je pense à la théorie du droit, discipline que je ne me sens pas capable d'approfondir. Parce qu'elle se situe à un niveau qui n'est pas le mien, je suis trop proche du droit positif, mais dans la théorie du droit, vous avez une recherche qui est véritablement une recherche fondamentale, portant sur les notions, les rapports entre les notions, et vous pouvez vous référer aux grands auteurs actuels ou plus anciens, vous verrez que ce qu'ils écrivent relève d'une recherche fondamentale. De la même manière qu'il y a une recherche fondamentale dans les sciences dites exactes, et de la même manière qu'il y a une recherche fondamentale, vous l'avez soufflé, en philosophie. Et la recherche fondamentale en théorie du droit, d'ailleurs, il y a également de la philosophie du droit qu'il ne faut pas confondre, mais ce sont quand même, dans les deux cas, des disciplines qui relèvent de la pure réflexion. Alors, en dehors de ce qu'on peut considérer comme la recherche fondamentale, Il y a, pour faire un parallèle, ce qu'on appellerait la recherche appliquée. Alors, recherche appliquée, la recherche très appliquée, pour résoudre un cas pratique. Alors, lorsqu'un avocat doit donner un avis sur un procès ou sur un projet de contrat, ben, il fait de la recherche appliquée. Il va rassembler l'ensemble des textes, l'ensemble de la jurisprudence qui permet de donner la solution. Alors, entre les deux, il y a ce que les professeurs font, c'est d'étudier l'état d'une législation, l'état d'une jurisprudence, de la mettre en perspective, d'établir des relations entre les différentes matières, enfin les différents aspects d'une matière, de relever les lacunes, les insuffisances, les erreurs, les contradictions, et de faire des propositions. Voilà ce que c'est que la recherche, que je rattachais tout à l'heure à une autre formule, celle de l'étude, mais il y a véritablement un apport de la part des juristes dans cette activité de recherche à la connaissance, l'amélioration de la connaissance, à la détermination de solutions nouvelles. Dans cette perspective, je n'ai pas de complexe par rapport aux scientifiques. Moi aussi, dans mon domaine, modestement, bien sûr, je participe à la recherche dans une activité qui est finalement de même type que celle que mes professeurs des disciplines scientifiques réalisent.
Vous l'avez évoqué, jusqu'alors, essentiellement, notre matière première était les recueils, le bon, les odeurs des bibliothèques, les vieux manuels, les dalloz, etc. Il faut bien reconnaître que depuis 5 ans maintenant, l'entrée dans les bibliothèques universitaires des espaces numériques de travail, des forums, des bases de données juridiques, a certes grandement facilité effectivement nos conditions de travail, je dirais, de recherche, d'accessibilité aussi à de la documentation. N'a-t-elle pas en même temps gommé la dimension du verbe, la dimension de la prise de distance sur la réflexion? Est-ce qu'on n'a pas trop mis les nouvelles technologies en avant?
Il m'arrive de dire, mais c'est exagéré, qu'il n'y a rien de plus bête qu'un ordinateur. Et quelquefois j'ajoute, si, il y a peut-être plus bête encore, c'est celui qui y met des données et c'est celui qui les utilise. L'ordinateur est un instrument merveilleux. Et vous l'avez dit, pour la recherche des données, il a fait gagner un temps et il a permis de connaître des informations que l'on n'arrivait pas à connaître, à établir des relations entre les systèmes, à accéder à ce qui relève, je parle du droit des États-Unis, du droit de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, du Japon. C'est un extraordinaire outil, mais c'est un outil. Et s'enfermer dans l'avalanche des connaissances que l'ordinateur permet d'obtenir, c'est se rendre prisonnier de la matière brute. Et vous l'avez dit, il est nécessaire d'avoir une distance par rapport aux données qui sont ainsi rassemblées. Nous avons une amélioration extraordinaire de la connaissance brute. Mais la recherche, justement, et pas simplement la connaissance brute, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la réflexion, la mise en perspective, encore une fois, pour reprendre un terme que j'ai employé à plusieurs reprises, et il y a une distanciation nécessaire du chercheur par rapport à l'ensemble des données que ces instruments extraordinaires permettent d'avoir, et les instruments ont changé, mais le mode de réflexion reste le même.
Nous arrivons
à... Mais oui, je
presque,
n'ai pas répondu à tout.
Presque deux questions, j'aimerais encore vous poser pour finir.
Je n'ai pas répondu à la distinction droit public, droit
privé.
Oui,
j'allais y revenir, la summa divisio, on peut en dire un mot.
La summa divisio, elle est relative, mais elle est liée en partie à une division universitaire, à une division juridictionnelle. Et vous avez évoqué le droit pénal. Le droit pénal, c'est du droit public.
Ça, c'est dans les sections de droit privé.
Mais oui, mais ça, c'est un rattachement. C'est un rattachement universitaire. Mais le droit pénal détermine les relations entre la société et ses sujets. C'est manifestement du droit public. Mais enfin, bon, c'est un découpage. Je ne vais pas faire une défense absolue de la division entre droit public et droit privé. Mais je crois que fondamentalement, il y a d'une part ce qui concerne l'organisation du pouvoir et ses relations avec ceux qui y sont assujettis, ça c'est le droit public, et d'autre part, il y a les relations entre les particuliers, ça c'est le droit privé. C'est très schématique, mais si l'on revient à ce qui est essentiel, je crois que la division, même si elle a sa part de relativité, la division existe et existera encore longtemps.
Deux petites questions pour finir. Les résultats d'un groupe de travail tenu en 2006 sur l'enseignement juridique soulignaient le doute et le mauvais moral des juristes universitaires, des professeurs. À l'heure où vous avez quitté l'université, mais vous en restez très proche, quel constat faites-vous en la matière? Quelles recommandations feriez-vous aux institutions et aux hommes et aux femmes?
Ne pas les mépriser. Et c'est quoi un sentiment qui n'est pas propre aux professeurs de droit, mais qui, ni même aux professeurs de l'enseignement supérieur, qui vaut pour les professeurs depuis l'université jusqu'aux écoles, un sentiment de dévalorisation par rapport au domaine des affaires, par rapport au domaine de la vie publique, de la vie administrative. Alors, on peut être désabusé, parce que notre situation n'est certainement plus celle qu'elle était il y a 30 ou 40 ans, au moment où je suis entré dans la carrière, ça fait même 50 ans. Mais quand je vois mes jeunes collègues, il y a une génération, dans les disciplines que je connais, d'une qualité exceptionnelle. La génération des 30-40 ans a, dans son ensemble, et avec quelques individualités que je ne vais pas citer ici, des professeurs de très haut niveau. Et si on peut, à certains égards, désespérer de l'institution, moi je ne désespère pas des hommes, et les hommes referont l'institution.
En quittant l'université, vous avez cité Alphonse Daudet, La dernière classe, dans les Contes du lundi, que je suis allée relire, du coup. Dans ce conte, l'auteur narre le dernier cours en français d'un instituteur alsacien, avant qu'un nouveau maître prussien n'arrive sur ordre de Berlin. C'est un peu à cet Alsacien que vous vous êtes identifié, étant moi-même d'origine alsacienne.
Ce que je ne suis pas du tout.
Oui, moi oui, je me suis identifiée durant votre carrière. Enseigner sa passion du droit, mais aussi du français, comme cet instituteur qui, lors de son dernier cours, se mit à parler, je cite, « de la langue française, disant que c'était la plus belle, la plus claire ». Qu'il fallait la garder entre nous et ne jamais l'oublier parce que, quand un peuple tombe esclave, tant qu'il tient bien sa langue, c'est comme s'il tenait la clé de sa prison. Professeur, quels conseils donneriez-vous à nos jeunes auditeurs en ce qui concerne l'emploi de la langue française, alors même que celle-ci a tendance à tomber, il faut bien le reconnaître parfois, en désuétude?
Ça n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas dire qu'elle tombe en désuétude. Vous pouvez dire qu'elle se trouve attaquée, dégradée,
malmenée
par les Françaises eux-mêmes, qui utilisent, quand ils parlent en français, une série de mots anglais. Ça fait bien, c'est la mode. Et lorsque j'ai cité La dernière classe à mon dernier cours, ce n'est pas par hasard, c'était parce que, effectivement, c'était ma dernière classe et c'était pour dire l'importance de la langue française, non seulement pour notre culture, mais pour notre être. Il le dit, l'instituteur, c'est la clé de la liberté. Et c'est la clé de notre maintien individuellement et collectivement dans un monde qui est de plus en plus envahi par l'anglo-saxon. Je veux parler de la langue, je veux parler du droit, je veux parler des affaires. Et si nous savons nous maintenir dans l'expression, nous aurons, comme les Québécois d'ailleurs le font, nous aurons un instrument pour que notre identité ne soit pas remise en cause. Et c'est pourquoi je suis tellement horrifié par la manière dont nous-mêmes, Français, perdons notre attachement à notre langue, c'est un signe de désintérêt pour... C'est un peu grandiose que je vais dire, un peu grandiloquent en tout cas, de désintérêt pour ce que nous sommes, chacun individuellement, et notre pays collectivement. Et c'est la raison pour laquelle, aussi bien le 12 mai, à mon dernier cours, que lors de la remise de mon épée, le 4 décembre, j'ai fait... un couplet, j'ai presque chanté un couplet à la gloire de la langue française et pour la défense de la langue française.
Je tiens donc le prochain thème de notre prochain rendez-vous, professeur, la langue française.
Si vous le voulez, mais c'est à l'Académie française, surtout qu'il faut en référer, bien que l'Académie des sciences morales et politiques ait un rôle à jouer, puisque je viens de dire, la langue, elle tient de la morale et de la politique.
Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Professeur, je vous remercie d'avoir été notre invité. J'invite les auditeurs et auditrices de Canal Académie, bien évidemment, à nous retrouver sur le site de Canal Académie. Professeur, au revoir.